Et le Fils de Dieu. Avant de plonger directement dans ma réponse à cette question, permettez-moi d'abord de vous faire un aveu. Je ne suis pas un témoin neutre. Alors, cela ne signifie pas que je suis plein de préjugés. Ma croyance en Jésus comme le Fils de Dieu est quand même fondée sur des preuves. Des preuves objectives, aussi bien que subjectives, impersonnelles aussi bien que personnelles, logiques aussi bien que vécues. Je suis donc impartial et objectif dans le sens que mes propos ne dépendent pas simplement de mes goûts personnels, de mes opinions, de mes idées préconçues. Mais je ne suis pas neutre. Quand je dis que je ne suis pas neutre, je veux dire non seulement que je crois, j'ai la ferme conviction, que cette croyance est vraie, mais aussi, je me suis engagé personnellement du côté de celui qui est l'objet de cette croyance. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En défendant la croyance de Jésus comme Fils de Dieu, je suis aussi peu neutre que Marie qui défend sa femme. Je ne suis pas comme ce soir comme un scientifique ou un philosophe qui défend son hypothèse. Je suis un amoureux qui défend sa bien-aimée. Je suis peut-être un amoureux inconstant et médiocre, mais un amoureux quand même. Je ne suis donc pas neutre. En fait, je suis ici ce soir pour défendre la foi. La foi. La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, comme dit le Nouveau Testament. Je ne suis pas ici pour défendre ma foi, ni pour vous raconter ma vie. On ne peut pas écarter les raisons que je vais vous présenter en disant qu'elles sont peut-être vraies pour lui, mais pas pour moi. Car ce sont des raisons objectives, des raisons universellement valables, des raisons logiques, des raisons philosophiques. Pour que deux personnes se comprennent, il ne suffit pas qu'ils utilisent les mêmes mots. Il faudra encore que ces mots aient le même sens. Donc nous allons commencer ce soir par définir ce que nous entendons par l'affirmation que Jésus est le Fils de Dieu. Que voulait dire Jésus quand il s'attribuait ce titre de Fils de Dieu? Ses auditeurs connaissaient bien le mot Dieu. Jésus, qui était juif, entendait par ce mot Dieu exactement ce que les écritures juives entendaient par le mot Dieu. Ce n'était là le problème. L'expression « le Fils de Dieu », par contre, faisait bien problème. Aucun juif ne s'était attribué ce titre à lui-même, ni à aucun être humain. Bon, l'expression se retrouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament, mais d'habitude c'est au pluriel, les fils de Dieu, et d'habitude, cette expression désigne les anges. Que voulait donc dire Jésus quand il s'attribuait ce titre fils de Dieu? Le fils d'un homme est un homme. Le fils d'un singe est un singe. Le fils d'un chien est un chien. Le fils d'un requin est un requin. De même, le Fils de Dieu est Dieu. Fils de Dieu est un titre divin. Jésus prétendait posséder deux natures, humaine et divine. Il s'appelait le Fils de l'homme et il s'appelait le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme est un homme. Mais le Fils de Dieu n'est pas un Dieu, petit d. Le Fils de Dieu est Dieu, D majuscule. Car Jésus était juif, et donc un strict monothéiste. La vérité la plus importante et la plus certaine pour le juif était celle-ci, en Deutéronome 6. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Ce qu'un père transmet à son fils, d'abord c'est la vie qu'il transmet, mais il transmet d'abord sa nature et son espèce. Le fils est égal à son père. Un fils humain, n'importe quel fils, est égal à son père en ce qui concerne sa nature et son espèce. Bien entendu, le mot fils est une image, est une métaphore quand il est appliqué à Dieu, parce que Dieu n'a pas de corps physique. Donc Dieu n'engendre pas des fils biologiquement, physiquement. Jésus n'a jamais donné une définition théologique de Dieu. Il a simplement appelé Père. Et il s'appelait lui-même Fils. Je crois que la plupart des théologiens et la plupart des philosophes chrétiens seraient d'accord pour dire qu'il n'y a qu'un seul texte dans toute la Bible où Dieu nous dit ce qu'il est, dans un langage non imagé, non analogique. Ce texte se trouve dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 3, où Dieu est en train de parler à Moïse dans le buisson ardent. Vous vous souvenez peut-être de cette scène, dans la Bible, dans le film des 10 commandements. À un certain moment, Moïse demande à Dieu, « Quel est ton nom ?» Et Dieu répond, « Je suis. » Mais cela ne nous dit pas ce que Dieu est. Cela nous dit simplement qu'il est. Je crois qu'une des choses que Dieu voulait communiquer par ce nom, c'est que ce qu'il est, son essence, n'est pas vraiment distinct de son existence, c'est-à-dire du fait qu'il existe. Dieu existe nécessairement. Il est l'existant, si vous voulez. Il y a certaines versions qui traduisent ce nom Yahvé par l'éternel. Une meilleure traduction serait peut-être l'existant. Il est le je suis. Il ne peut pas ne pas exister. L'affirmation « Jésus est le Fils de Dieu » signifie donc que Jésus est divin. Dans la personne de Jésus, en Jésus-Christ, nous rencontrons une personne qui a deux natures, humaine et divine. Les théologiens ont nommé cette croyance, qui est spécifiquement chrétienne, ont nommé cette croyance l'incarnation. L'incarnation signifie que Dieu, littéralement, s'est fait chair. Dieu est devenu homme. Ce n'est pas que Dieu, le « Je suis » éternel, soit devenu un homme dans sa nature. Car la nature de Dieu est immuable. Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu, c'est pas possible. Cela veut dire plutôt que Dieu a pris sur lui une deuxième nature, une nature humaine. C'est ainsi que Jésus de Nazareth, fils de Dieu, avait une nature divine et une nature humaine. Même si ces deux natures sont opposées, et elles le sont bien, elles sont opposées. Être divin, c'est être infini, ni commencement, ni fin. Alors qu'être humain, c'est être limité, c'est avoir un commencement, la naissance, et une fin, la mort. Mais des natures opposées peuvent très bien coexister dans la même personne. cela n'est pas tout à fait sans précédent. Chacun de nous, sur un autre plan, est une personne avec deux natures opposées. Âme et corps, visible et invisible, existant dans l'espace et ne pas existant dans l'espace. Votre âme n'existe pas dans l'espace. Elle n'a aucune dimension physique mesurable. Votre âme n'a pas de poids, votre âme n'a pas de forme, n'a pas de couleur. Bon, la plupart des chrétiens, quand ils disent « je crois que Jésus est le Fils de Dieu », ne pensent pas à des définitions théologiques abstraites, pas plus que nous ne pensons à la formule chimique H2O quand nous demandons un verre d'eau. Nous croyons que Jésus est vraiment le Fils de Dieu quand nous croyons en Jésus. Et quand nous mettons en pratique cette croyance, en adorant Jésus et en le reconnaissant comme Seigneur. La formule que nous trouvons dans les écrits de Saint Paul, Jésus est Seigneur, est probablement le plus ancien credo chrétien. Le mot grec qui est traduit Seigneur ici, Kyrios, en fait, désigne la souveraineté divine. Cette confession de foi était le moyen le plus fondamental et le plus essentiel de distinguer ce que croyaient tous les chrétiens et ce que croyaient tous les autres. Aucun chrétien nie que Jésus est Seigneur. S'il le nie, ce qui n'est plus chrétien. Et aucun non-croyant croit que Jésus est Seigneur. Au moins pas dans le sens que cette formule a dans le Nouveau Testament. S'il le croit, on pourrait soutenir qu'il est déjà chrétien, ou pas loin de le devenir. Mais pourquoi cette doctrine, qu'on appelle la filiation divine de Jésus, la croyance que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi cette doctrine est-elle si importante? Mais nous avons déjà croisé une des raisons principales. Cette doctrine est la pierre de touche du christianisme. C'est le moyen, c'est la croyance qui, le plus clairement, le plus fondamentalement, distingue les chrétiens des non-chrétiens. Deuxièmement, c'est la base de toutes les autres croyances des chrétiens. Si le Christ est divin, cela veut dire que son autorité est suprême et infaillible. Vous savez, le christianisme n'est pas une philosophie, c'est une religion. Il repose non pas sur la raison humaine, mais sur un message divin, sur une révélation de Dieu. Les chrétiens ne sont pas parvenus à leur croyance à coup de raisonnement humain, à coup de raisonnement logique. Ils ne fondent pas non plus leur croyance sur leurs propres expériences, ni sur leurs propres intuitions mystiques, ni sur leurs propres sentiments humains. Ils fondent leur croyance sur une seule chose, l'autorité. L'autorité de Dieu lui-même. Ce Dieu qui est devenu homme dans la personne du Christ. Ce Dieu qui a donné mission à ses apôtres d'enseigner dans son nom et de rédiger les Écritures, le Nouveau Testament, et de faire connaître le nom du Christ à toutes les générations. La troisième raison de l'importance de cette doctrine est personnelle, existentielle. Si Jésus est Seigneur, il est mon Seigneur et le Seigneur de ma vie et de tout ce qu'il y a dans ma vie. Mes pensées, mes choix, mes valeurs morales, mon corps, mon argent, mes relations avec les autres, ma vie sexuelle, ma carrière, ma mort, mon espérance d'éternité. Si Jésus est Seigneur, il est le Seigneur de tout. Et donc, il est mon Seigneur. Quatrièmement, si le Christ est à la fois Dieu et homme, eh bien, c'est lui qui nous fait connaître d'une manière définitive et insurpassable qui Dieu est et qui nous sommes. Dieu ne nous cache rien dans le Christ. Écoutez ce que Jésus dit. C'est dans l'Évangile selon Jean. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Toute révélation, toute vérité. En Luc chapitre 10, Jésus dit encore, tout m'a été remis par mon Père. Et nul ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. L'apôtre Paul ajoute ceci, car en lui, en Jésus, habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Et puis ce texte en Jean chapitre 14, très célèbre, où l'apôtre Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela suffit, nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Le Christ nous montre le vrai visage de Dieu. Mais le Christ nous montre aussi le vrai visage de l'humanité. Notre vraie nature. Notre vraie identité. Voici ce que nous avons été destinés à être. Voici une vraie réussite. Voici un être humain pleinement accompli. Voici une vie humaine parfaite. Voici le modèle parfait de tout ce qui est humain. Le Christ montre le vrai Dieu à l'homme et le vrai homme à l'homme. Les chrétiens ont tendance à oublier à quel point il est difficile de croire à la divinité du Christ. Cette doctrine est littéralement l'idée la plus étonnante et la plus stupéfiante jamais conçue au cours de l'histoire humaine. Cet homme, Jésus de Nazareth, ce fils de charpentier, né d'une femme comme tout autre être humain, qui a dû apprendre à marcher et à parler, qui a connu la fatigue et la faiblesse, la douleur et la faim. Cet homme qui a souffert la mort par crucifiement. Cet homme est Dieu, l'Esprit infiniment parfait, infiniment puissant, infiniment éternel, qui a créé l'univers. Incroyable. Je ne vais pas essayer de vous prouver que cette doctrine est évidente, facile ou probable, parce qu'elle n'a rien d'évident, de facile ou de probable. Je comprends très bien le non-chrétien qui saisit bien le sens de cette doctrine et qui secoue la tête en signe de stupéfaction, se demandant comment se fait-il que des millions d'hommes et de femmes, par ailleurs rationnels et saints d'esprit, dont un bon nombre compte parmi les personnes les plus intelligentes du monde. Comment se fait-il que tous ces gens puissent croire une telle chose? Cette énigme devrait empêcher tout chercheur de vérité de faire ce que font la plupart des non-croyants, écarter la doctrine comme un simple mythe, comme une exagération pieuse, quelque chose à ne pas prendre au sérieux. Cette doctrine peut être pleine d'autres choses, mais elle est sérieuse. Si ce n'est pas la vérité suprême, alors c'est la stupidité suprême. Le non-croyant qui prend des chrétiens pour des fous est peut-être plus près de la foi que le non-croyant qui pense que les chrétiens sont des personnes gentilles, mais qui croit comme ça à un point obscur d'une religion ancienne. Ceux qui ont crucifié le Christ pour blasphème étaient peut-être plus près de la foi que l'humaniste moderne qui applaudit les enseignements éthiques de Jésus, tout en passant sous silence ce que Jésus a dit sur sa propre personne. Ça, c'était l'introduction. Donc, nous allons regarder ce soir deux arguments en faveur de la divinité de Jésus. Un argument logique et puis plus brièvement, un argument moral. Mais tous les arguments, quels qu'ils soient, ont besoin de données. Les renseignements que nous possédons sur Jésus et sur sa vie nous viennent surtout du Nouveau Testament et de l'Église, c'est-à-dire la communauté de croyants qui a transmis l'histoire de Jésus de génération en génération. Ces renseignements nous mettent en face d'un personnage qui a eu sur les autres et sur l'histoire un plus grand impact que n'importe quel homme qui ait jamais existé. Et pourtant, Jésus n'a jamais fait de la politique, il n'a jamais combattu dans une guerre, il n'a jamais écrit un livre. Il a habité dans un petit pays paumé, il n'a jamais été à plus de 200 kilomètres de chez lui. Il a été exécuté par crucifiement, comme un criminel dangereux. Ces enseignements éthiques n'étaient pas vraiment nouveaux. Presque chaque conseil que Jésus nous a donné pour vivre, on peut le retrouver déjà dans l'Ancien Testament, ou même dans la philosophie de Socrate, ou de Bouddha, ou de Lao Tzu, ou de Confucius. Quelle était donc la cause de l'impact sans précédent qu'il a eu sur le monde? C'était peut-être sa personnalité. Mais sa personnalité n'était pas du tout sans précédent. On avait déjà vu des maîtres de sagesse bons et créatifs. Mais c'était peut-être sa prétention à la divinité. Mais cela non plus n'est pas tout à fait sans précédent. Il y a des centaines de personnes qui prétendent être Dieu. On peut trouver la plupart d'entre elles dans des asiles psychiatriques. Non, ce qui était sans précédent, c'était l'union de ces deux choses. Aucun autre sage n'avait prétendu être Dieu. Et aucune autre personne prétendant être Dieu n'avait été si sage. Ce qui était unique chez Jésus, c'était le mariage de sa personnalité attrayante et de ses prétentions extravagantes. Jamais une personne aussi croyable n'a fait sur elle-même des déclarations aussi incroyables. L'alliance apparemment incompatible de sa personne et de ses prétentions fait de Jésus unique en son genre. Une énigme, la plus grande énigme de l'histoire. Nous ne pouvons résoudre cette énigme que de deux manières. Il n'y a que deux façons de résoudre l'énigme de Jésus. Ou bien, accepter ses prétentions à la divinité, Parce qu'on a d'abord accepté sa personnalité, sa crédibilité, sa fiabilité et son autorité personnelle. Ou bien, rejeter sa personnalité parce qu'on a d'abord rejeté ses prétentions à la divinité. Mais quel genre de personne était Jésus? Quel genre de personne? D'après tout, toutes les données historiques qui sont parvenues jusqu'à nous, c'était un homme sage, c'était un homme bon, c'était un maître de sagesse, digne de confiance. C'est-à-dire, il n'était ni trompeur, ni trompé, ni un baratineur immoral, égoïste et menteur, ni un doux rêveur sincère, mais éperdument naïf, qui n'a aucun sens des réalités, ni un fraudeur, ni un fou. Il a prétendu être Dieu, une prétention énorme. Vous vous rendez compte? Si je veux me présenter devant vous ce soir et vous disais, mesdames, messieurs, j'ai une annonce très importante à vous faire. Moi, je suis descendu du ciel et je suis Dieu. Ça m'étonnerait que vous me croyiez. Une prétention incroyable. Mais, contrairement à moi, vous me connaissez trop, sa personne était crédible. Pour ceux qui l'ont rencontré, c'était bien là le nœud de la question. Ils devaient ou bien croire à sa prétention presque incroyable, ou bien ne pas croire à sa personne très très croyable. Les sources historiques nous montrent elles aussi un homme qui prétendait être Dieu. Une prétention que Jésus exprimait de plusieurs façons différentes dans les quatre évangiles. J'en ai fait une petite liste. Jésus s'appelait souvent Fils de Dieu. Il prétendait avoir l'autorité de pardonner tous les péchés, ce qui est une prérogative de Dieu. Moi, je peux vous pardonner les péchés que vous avez commis contre moi, mais je ne peux pas vous pardonner les péchés que vous avez commis contre d'autres personnes. Il a accompli de nombreux miracles. Il a ressuscité des morts. Lui-même, il est ressuscité d'entre les morts. Il a accepté le titre « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a accepté l'adoration de ses disciples. Il s'est attribué lui-même, à lui-même, le nom divin ineffable. Je suis. Ça, c'est un incident qu'on peut lire en Jean chapitre 8. Jésus disait à ses adversaires juifs, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, Abraham avait vécu 2000 ans auparavant. Et Jésus dit, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. C'est à ce moment-là que les Juifs ont ramassé des pierres pour tuer Jésus, pour blasphème. Jésus a promis de remonter au ciel, parce qu'il était descendu du ciel. Il a promis de rentrer chez lui au ciel et d'envoyer l'Esprit Saint à ses disciples. Il a prétendu avoir le pouvoir de nous donner la vie éternelle. Il a dit qu'il reviendrait à la fin des temps pour juger le monde. Voilà les données, une partie des données. Comment est-ce qu'on va les interpréter? Mais il n'existe au fond que deux interprétations possibles. Jésus était Dieu, ou bien il n'était pas Dieu. Voici à quoi ressemble cet argument sous sa forme la plus simple. Ce n'est pas compliqué, hein? Vous n'aurez pas de mal à suivre. Jésus était un ou bien Dieu. Si ce qu'il prétendait était vrai, ou deuxièmement, il était un homme mauvais, si ce qu'il prétendait n'était pas vrai. Car les hommes bons ne prétendent pas être Dieu. Or, Jésus n'était pas un homme mauvais. Si jamais il a existé un homme qui n'était pas mauvais dans l'histoire humaine, c'était bien Jésus. Donc, Jésus était et il est Dieu. Les premiers apologistes chrétiens ont vu que ceci vraiment est le nœud de la question. Et ils ont développé un argument. Faut me pardonner mon accent latin. J'ai pas fait de latin. Un argument haute deus, haute homo malus. Le Christ était ou bien Dieu, ou bien un homme mauvais. Or, presque tous les non-croyants de toutes les époques ont cru que Jésus n'était ni Dieu, ni un homme mauvais, mais que Jésus était un homme bon, un maître de sagesse. Mais un homme bon est la seule chose, justement, que Jésus n'a pas pu être. Il n'a pas pu être simplement un homme bon. S'il était bien le Dieu qu'il prétendait être, alors il n'était pas simplement un homme bon, il était bien plus qu'un homme. Et s'il n'était pas le Dieu qu'il prétendait être, ben c'était un homme mauvais. Un homme qui prétend être Dieu et qui ne l'est pas, on ne peut pas l'appeler un homme bon. En fait, c'est ou bien un fou, c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui prétend être Dieu, qui croit être Dieu et qui ne l'est pas, ou bien un menteur, parce qu'il prétendait être Dieu tout en sachant parfaitement que ce n'était pas vrai. Alors, Dieu, menteur ou fou, voilà les seules possibilités. Les deux dernières possibilités, Jésus le menteur et Jésus le fou, ne sont pas très populaires aujourd'hui. Et en fait, n'ont jamais été très populaires. Comment donc les non-chrétiens, je veux dire les non-chrétiens qui réfléchissent, qui sont sérieux au sujet de leur incrédulité, comment est-ce que les non-chrétiens peuvent échapper à cette alternative? Dieu, menteur ou fou? Eh bien, ils ont recours à deux nouvelles possibilités inventées pour l'occasion. Deux nouvelles façons de comprendre Jésus. Selon la première nouvelle théorie, Jésus était un gourou, un mystique, un genre de panthéiste hindou. Donc, Jésus est bien Dieu, comme il a prétendu être. Donc, il n'est pas un menteur, il n'est pas un fou. Mais, par le mot Dieu, Jésus n'entendait pas le Dieu des Juifs. La personne, le Dieu personnel et infini qui a créé l'univers. Jésus voulait dire simplement que nous sommes tous Dieu. Nous faisons tous partie de Dieu. Dieu est en chacun de nous. Nous sommes tous des manifestations de Dieu. Cette théorie voit en Jésus un genre de panthéiste. Le panthéisme, c'est la croyance que tout est Dieu et que Dieu est tout. De ce point de vue paraît plausible au début, parce que les panthéistes ont toujours été assez nombreux dans l'histoire de la pensée humaine, surtout dans l'hindouisme, mais ailleurs aussi. L'Occident a toujours eu ses panthéistes. Donc il n'est pas inconcevable que Jésus fût un panthéiste. Dans ce cas, sa prétention à la divinité n'a rien d'unique, n'a rien d'extraordinaire même. Bien sûr que Jésus était Dieu. Nous sommes tous Dieu. Bon, il y a deux problèmes, gros problèmes, avec cette théorie. Premièrement, elle n'a absolument aucun fondement historique. Jésus n'était pas hindou, il était juif. Il n'a jamais quitté le pays d'Israël Et il n'y avait pas de panthéistes en Israël. Le judaïsme de l'époque de Jésus a compté bien des, on dirait aujourd'hui des sectes, mais ce mot a pris un sens péjoratif, des mouvements à l'intérieur du judaïsme, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et d'autres. Mais aucun de ces mouvements n'était panthéiste. Deuxième problème. Si Jésus était un gourou, ben il était le maître à penser le plus nul de l'histoire. Car personne, personne, ni parmi ses amis, ni parmi ses ennemis, n'a jamais compris ce qu'il enseignait. Jusqu'à ce que quelques intellectuels malins du XXe siècle aient finalement pigé. Jésus a essayé d'enseigner l'hindouisme aux Juifs du premier siècle. Mais il a tellement raté son coup qu'il n'a pas laissé un seul disciple qui ait compris un seul enseignement hindou du panthéisme. Pas un seul. Pour chaque question, le judaïsme et l'hindouisme sont en désaccord. L'enseignement de Jésus était à 100% juif et à 0% hindou. Par exemple, la personnalité de Dieu fait que Dieu est une personne. La volonté de Dieu, la création de l'univers, la valeur positive de la matière, la réalité du monde physique, l'existence de l'âme humaine individuelle, l'importance du corps, le libre arbitre des hommes, le péché, la nécessité de repentance et de salut, la réalité du jugement dernier, la possibilité d'un enfer éternel, la résurrection du corps plutôt que la réincarnation, l'adoration plutôt que l'expérience mystique, la prière plutôt que la méditation. Jésus a confirmé et a renforcé chacune de ces idées juives, alors que les panthéistes les rejettent toutes. Jésus n'était pas un panthéiste. Il faut quand même être sérieux. Mais il existe une dernière échappatoire possible, un dernier moyen d'échapper à ce dilemme. Hein, Jésus, Dieu, menteur ou fou. Cette hypothèse est tellement crue, tellement populaire de nos jours parmi les érudits, entre guillemets, que les médias l'acceptent aveuglément. C'est l'hypothèse selon laquelle les écrits du Nouveau Testament ne sont pas historiquement fiables. Le Jésus des évangiles, le Jésus qui a prétendu être le Fils de Dieu, venu nous sauver de notre péché, le Jésus qui a accompli des miracles, qui est ressuscité d'entre les morts, est un mythe très différent du Jésus historique. D'après cette hypothèse, les écrits du Nouveau Testament racontent bien la vérité sur la personnalité humaine, remarquable de Jésus, mais ne racontent pas la vérité au sujet de ses prétentions à la divinité et au sujet des miracles qu'il a faits. Ainsi, Jésus n'était ni Dieu ni un homme mauvais, car il n'a jamais prétendu être Dieu. C'est les rédacteurs du Nouveau Testament qui ont inventé cela. Vous savez, ça c'est le seul moyen d'échapper au dilemme. Contester, rejeter les données historiques. Parce qu'une fois que vous admettez les données historiques, eh bien, il faut faire face à la prétention de Jésus à la divinité. Parce que cette prétention est au centre de la pensée du Nouveau Testament. Alors, là vous avez deux possibilités. Si la prétention de Jésus à la divinité est vraie, vous devez devenir chrétien et adorer le Christ. Si sa prétention à la divinité est fausse, vous devez le crucifier pour blasphème ou l'enfermer dans un asile de fous. Nous constatons aujourd'hui, partout, un effort massif de discréditer l'historicité du Nouveau Testament. Et ce qui est vraiment ironique à ce sujet, c'est que cet effort vient en grande partie de théologiens. Ces théologiens modernistes, c'est comme ça qu'on les appelle, ont fait couler beaucoup d'encre pour justifier leur façon de lire la Bible. On ne peut pas répondre en détail à toutes leurs hypothèses nombreuses. On va simplement regarder leurs conclusions pour voir si ces conclusions, oui ou non, sont raisonnables. La conclusion de la critique textuelle moderniste, c'est que le Nouveau Testament n'est pas fiable historiquement, que le Jésus historique est radicalement différent du Jésus de la foi, c'est-à-dire le Jésus fabriqué par les rédacteurs du Nouveau Testament, les premiers chrétiens. En d'autres termes, au lieu d'un seul menteur ou fou, Jésus, il y en a des centaines. Les premières générations de l'Église, les rédacteurs du Nouveau Testament, les fabricants de ce mythe, quel qu'il soit. Regardons brièvement quelques-uns de ces hommes. Matthieu, Marc, Luc, Jean et Paul. Matthieu et Jean prétendent explicitement être témoins oculaires des événements qu'ils racontent dans leurs évangiles. Marc, Luc et Paul prétendent avoir interviewé des témoins oculaires et avoir fait des recherches historiques sérieuses. Et c'est vrai, toutes les données historiques à notre disposition tendent à confirmer cette prétention plutôt que de la réfuter. Tous les documents rédigés par les chrétiens ou même par les non-chrétiens depuis le commencement admettent que tous les chrétiens ont toujours cru littéralement ce que nous définissons aujourd'hui comme le christianisme, c'est-à-dire ce qu'enseigne le Nouveau Testament. Ce n'est qu'au 20e siècle, au 19e siècle, qu'on a commencé à parler de mythe. Voilà pourquoi la datation des écrits du Nouveau Testament est si importante. Si les évangiles ont été rédigés du vivant des contemporains de Jésus, eh bien, il est impossible qu'un tel mythe, que Jésus est Dieu, ait pu naître et être largement cru. Impossible. Imaginez que des millions de Français, aujourd'hui, se mettent à croire que Napoléon Bonaparte avait prétendu être Dieu. Qu'il avait pardonné tous les péchés, qu'il avait fait des miracles, et qu'il était ressuscité d'entre les morts. Imaginez que ces gens publient toutes ces prétentions dans un livre. Bon, c'est vrai. Il existe aujourd'hui un grand nombre de données matérielles et documentaires sur la vie de Napoléon. Mais il n'y a aucun témoin oculaire qui a connu Napoléon personnellement. Il est concevable, pas très probable, mais concevable qu'un savant très malin et entreprenant puisse inventer au sujet de Napoléon un nouveau mythe qui remplace le Napoléon historique. Et il est concevable que beaucoup de gens croient à ce mythe. Deux siècles plus tard, deux siècles après les faits. C'est concevable. Mais vous ne pourriez pas faire la même chose pour François Mitterrand. Il y a trop de gens toujours en vie pour se lever et dire, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai connu François Mitterrand. Et il n'a jamais prétendu être Dieu. Il n'existe pas la moindre preuve que les écrits du Nouveau Testament ont été rédigés après la mort des apôtres du Christ. Il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup d'hypothèses abstraites. Mais toutes les preuves positives, toutes les données concrète indique que les évangiles ont été rédigés du vivant des apôtres de Jésus. Sans parler des épîtres de l'apôtre Paul, aucun savant, aucun érudit qui se respecte ne conteste le fait que ces épîtres ont été rédigés avant l'an 60, c'est-à-dire une trentaine d'années après la mort de Jésus. Et pourtant, même dans les épîtres de Paul, ces premiers écrits chrétiens, nous trouvons un christianisme qui est fondé sur la divinité de Jésus, sa mort sacrificielle, sa résurrection d'entre les morts et son ascension au ciel. Donc, si la divinité de Jésus est un mythe, si le récit des évangiles est un mythe, si le Jésus historique n'a jamais prétendu être Dieu, s'il n'a jamais pardonné les péchés, s'il n'a jamais fait des miracles, s'il n'est jamais ressuscité d'entre les morts, alors ce mythe a été fabriqué par les apôtres eux-mêmes et non pas par des générations postérieures. Et maintenant la question, pourquoi les apôtres mentiraient-ils? Quelle serait la raison, quelle serait la motivation d'une telle conspiration? Vous savez, les menteurs, quand ils mentent, c'est pour une raison égoïste. Mais qu'est-ce qu'ils ont tiré de ce mensonge, les apôtres? Ben voici ce qu'ils ont tiré. Méconnaissance, exclusion, persécution, emprisonnement et martyr. Ce n'est pas ce qu'on appellerait des avantages en nature. Pourquoi un des apôtres, surtout sous la torture, pourquoi n'a-t-il pas fini par avouer la tromperie? C'est vrai, le martyr n'est pas une preuve qu'on a raison. C'est pas une preuve de vérité. Mais c'est une preuve de sincérité. Bon, la plupart des modernistes ne prétendent pas que les rédacteurs du Nouveau Testament étaient des menteurs ou des fous, mais qu'ils étaient simplement des fabricants de mythes. Ils prétendent que tout ce qui est miraculeux, tout ce qui est surnaturel dans le Nouveau Testament est à prendre, non pas littéralement, mais symboliquement, comme les fables de La Fontaine. Vous savez, dans les fables de La Fontaine, il y a une fourmi qui parle. Il y a une cigale parlante. Et ces animaux représentent, sont symboles de la prévoyance et de la paresse. Et de même, Jésus est le symbole de la bonté. La résurrection est le symbole du triomphe de la vie sur la mort. Tout ce récit, c'est pas historique. C'est simplement un mythe. Il n'est pas vrai, ce récit, mais il est bon. Il est moralement édifiant. Quand les gens lisent cette histoire, cela les incitera à vivre une vie plus vertueuse et être de meilleures personnes. Bon, il y a beaucoup de problèmes avec cette théorie. Je vais simplement en mentionner trois ce soir. Premièrement, du point de vue littéraire, et on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en littérature comparée pour le voir, ça saute aux yeux. Du point de vue littéraire, les évangiles n'appartiennent pas au genre mythique. Ils ne sont pas écrits comme des mythes, ils ne sont pas structurés comme des mythes, ils ne sont pas construits comme des mythes, mais comme des témoignages oculaires. Deuxièmement, ces écrits eux-mêmes affirment explicitement être des récits littéraux de témoignages oculaires. Je vais simplement vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est l'apôtre Jean, et qui est en train de décrire la crucifixion de Jésus. Il dit, celui qui a vu, ça c'est lui, hein, celui qui a vu a rendu témoignage et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qui dit ce qui est vrai, afin que vous aussi vous croyiez. J'en dis, j'étais là. J'ai vu la crucifixion de mes propres yeux. Ce que je dis, je le sais que c'est vrai. Deuxième témoin, c'est l'apôtre Pierre. En effet, ce n'est pas en nous mettant à la traîne de fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour l'avoir vu de nos yeux. On l'a vu de nos propres yeux. Alors, si les événements racontés dans les évangiles sont des mythes, alors qu'ils prétendent explicitement le contraire, ça veut dire que ce sont des mensonges. Ce sont des mystifications. Ce sont des faux témoignages. Et ce ne sont pas simplement des mythes édifiants. Et puis, troisièmement, aucun symbole mythique n'a jamais tant révolutionné le monde, ni transformé autant de vies. Qu'est-ce qui a adouci les cœurs romains endurcis? Qu'est-ce qui a durci les cœurs craintifs et peureux pour en faire des héros? Qu'est-ce qui a mis des cantiques sur les lèvres des martyrs? Qu'est-ce qui a changé des pécheurs en saints? Comment un mythe peut-il expliquer tant de vie transformée pour le bien? Cela nous amène à notre dernier argument, très brièvement, un argument moral. Moi, je crois qu'il s'agit d'un des arguments les plus puissants en faveur de la divinité de Jésus. Plus de gens ont été convertis par les saints que par les théologiens. Plus de gens ont été convertis par des vies de sainteté que par des arguments logiques. Bon, pour certains, cet argument sera assez faible. Pour d'autres, il sera probant. Je vais vous le présenter en 6 points. N'ayez pas peur, c'est très rapide. 6 points. Premièrement, si Dieu existe, il est infiniment parfait. Ça, c'est la définition du mot Dieu. 2. La perfection la plus importante, c'est la perfection morale. Bonté, amour, don de soi. 3. Dieu a manifesté sa bonté en créant l'univers. Un univers beau, un univers complexe et brillant, et en nous le confiant. Vous savez, un jour l'univers mourra. Mais nous ne mourrons pas. Alors que toutes les galaxies, toutes les étoiles se sont éteintes depuis longtemps, nous vivons toujours. 4. Votre réponse à cela doit être la reconnaissance. La gratitude est l'attitude qui s'accorde avec la réalité. Être reconnaissant, c'est être réaliste. C'est être sain d'esprit. La reconnaissance est vraie, parce que la vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. La reconnaissance, c'est la vérité dans les sentiments. 5. L'autre réponse vraie à la réalité, c'est l'amour. Car Dieu est la réalité suprême, et Dieu est amour. Dieu a montré qu'il est amour. Il nous a fait. On s'est pas fait nous-mêmes. Dieu nous a fait. Il nous a donné notre existence. Il nous a donné notre vie. Il nous a donné ce monde. Aimer, c'est être saint d'esprit. C'est être réaliste. C'est vivre en accord avec la réalité. C'est ressembler à notre Créateur. Et puis 6. Voici le cœur de la foi chrétienne. Brady a déjà cité ce verset. Il se trouve en Jean chapitre 3. Voici la proposition fondamentale de la foi chrétienne. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais et la vie éternelle. Ce dernier point correspond parfaitement aux cinq premiers. Jésus correspond parfaitement à tout ce que nous savons sur le Dieu qui nous a fait. Dieu est amour. L'incarnation est le couronnement de la révélation de Dieu. Ce Dieu qui s'est déjà fait connaître comme bonté, comme amour, comme don de soi. L'incarnation et la crucifixion sont exactement le genre de choses que ce Dieu-là ferait. Des choses trop belles pour être vraies. Ou peut-être trop belles pour ne pas être vraies. Imaginez que nous possédions les 8 premières symphonies de Beethoven, mais non pas la 9e. Et supposons qu'un jour un homme y trouve une vieille partition de musique et prétend que c'est le manuscrit perdu de la 9e symphonie de Beethoven. Bon, supposons que vous êtes expert en musique classique et vous connaissez très bien la musique de Beethoven et vous avez la possibilité d'entendre interpréter cette symphonie perdue. Ben, vous sauriez tout de suite si cette symphonie était authentique ou pas. Parce que vous connaissez le maître, vous connaissez le style de Beethoven. Vous reconnaîtriez dans cette composition le couronnement de la carrière de Beethoven. De même, le Christ correspond au style de Dieu, à tout ce que nous savons sur lui. Jésus lui-même est le couronnement, il est le point culminant de la révélation de Dieu. Si ce Dieu-là devait devenir homme et venir sur la terre, il ressemblerait exactement à Jésus de Nazareth. Pour certains, cet argument peut être aussi frappant que le fait de se rendre soudainement compte. Quand vous êtes en train de regarder deux photos, vous vous rendez tout d'un coup compte, mince, c'est la même personne, c'est lui, dans la même photo. En regardant Jésus, on dit, oh mais, mince, c'est Dieu, ça correspond. Jésus lui-même a mis cela en scène, et on va terminer par cette citation, dans sa parabole du bon berger. Jésus dit, les brebis écoutent sa voix, la voix du bon berger. Les brebis l'écoutent. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle chacune par son nom et il les amène dehors. Elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Plus vous connaissez la voix de Dieu, plus vous suivrez son Fils, plus vous reconnaîtrez la voix de Dieu dans la voix du Christ. Voilà pour ce soir. J'aimerais regarder, si vous avez l'occasion de revenir, je vous invite pour demain soir, nous allons regarder un sujet qui est beaucoup moins intellectuel, si vous voulez. C'est le problème de la souffrance. Et j'aimerais vous parler des raisons pour lesquelles je continue à croire en Jésus, malgré le problème du mal, malgré l'existence de la souffrance du monde. Et je voulais simplement vous inviter. Merci pour votre attention ce soir.